apprendre à partir de l'Évangile et de la tradition, donc des grands théologiens et des pères de l'Église. Cette arête importante, ce motif qui fait la convenance de l'incarnation, satisfaire au péché. Oui, c'est une relation personnelle, ce point de vue de la satisfaction. Je crois qu'il faut bien le comprendre, puisque c'est cela qui commande la théologie scientifique. Jésus est venu pour réparer le péché, c'est-à-dire réparer, reprendre le pécheur, métaphoriquement, en payant sa dette. C'est-à-dire prendre la place du pécheur en face de Dieu. En raison même qu'il a la même nature que nous et de son amour pour nous, il a pris notre place. Tout le mystère de l'agonie. Il a voulu être en face de la justice du Père. Que nous, en tant que petites créatures, nous ne pouvons pas faire. Lui, en tant que ayant épousé, comme Dieu peut le faire, les épousailles qui atteignent l'être, lui, ayant épousé dans cette alliance de l'époux et de l'épouse, annoncé depuis Osée jusqu'au Cantique des Cantiques, ayant épousé la nature humaine pécheresse, il a pris sur lui toutes les conséquences du péché. Toute la responsabilité du pécheur. Il s'est présenté au Père comme le seul coupable de tous les hommes. Et c'est dans ce sens-là qu'il est médiateur entre la très sainte Trinité, entre le Père et nous. Parce qu'il a pris sur lui toute cette responsabilité, conséquence du péché. La satisfaction est quelque chose de très grand. Mais quelquefois nous avons la tentation de réduire le point de vue de la satisfaction comme si c'était quelque chose de métaphorique. Le rachat, oui. Que les pères de l'Église rachat par rapport au démon, comme si le démon, par le péché d'orgueil, avait pris possession de l'humanité. C'est vrai, intentionnellement. C'est vrai, au point de vue de la volonté. Une faute grave d'orgueil. C'est-à-dire pleinement consciente d'un refus à l'égard de Dieu, dès qu'on passe dans le camp adverse, si j'ose dire. Vous voyez, toutes les métaphores, on passe dans le camp opposé, on passe au démon. Et par le fait même, il faut racheter ce butin. On est prisonnier, volontairement par le péché. Vous voyez, c'est métaphorique. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait juste. Le démon ne peut pas avoir de droit sur l'âme créée par Dieu. Ce n'est pas le démon qui l'a créée. Donc au point de vue de l'être, ce n'est pas vrai. Mais au niveau de l'amour, et de l'amour humain, et de la volonté, c'est vrai. Tout orgueil, toute faute grave, qui est toujours une faute d'orgueil, fait qu'on abandonne la première alliance. Qu'on ne veut plus regarder la dépendance radicale de la créature. On ne veut plus adorer. C'est ça qui est le plus terrible dans l'orgueil. C'est qu'on ne veut plus adorer et on ne regarde que son autonomie. Je suis autonome, je suis libre de dire oui ou non. Et c'est ça le péché d'orgueil. Le péché d'orgueil touche quelque chose de métaphysique. Parce qu'il touche notre dépendance actuelle à l'égard de Dieu, qu'on ne veut pas reconnaître. C'est pour ça que pour saisir la gravité du péché d'orgueil, et tout est là pour la satisfaction, il faut saisir l'exigence de l'adoration. Le péché est quelque chose de négatif. Catherine de Sienne dira, dans son style mystique, Catherine de Sienne dira, le péché, c'est moins que rien. Vous voyez, métaphysiquement, ça colle pas. C'est comme la petite Thérèse, quand elle dit, Seigneur, ôte-moi la liberté de t'offenser. Métaphysiquement, ça ne colle pas. Mais dans un langage affectif, mystique, c'est très beau. On sait qu'on est fragile. On sait qu'on peut pécher. Il y a en nous toujours deux hommes. Et les femmes peuvent dire qu'il y a deux femmes. Je sais pas, c'est pire, mais c'est... Il y a deux hommes et deux femmes. C'est-à-dire qu'il y a en nous l'homme sauvé par Dieu et il y a en nous l'homme atteint par le péché qui est sur une pente glissante. Il y a la lutte. Il y a un drame humain. On le sait bien. Et Jésus vient nous sauver de cet homme toujours capable de pécher. Alors on comprend très bien que quelqu'un qui veut aimer comme la petite Thérèse et qui veut aller le plus loin possible dans l'amour, elle veut tout prévoir dans l'amour. Alors ôte-moi la liberté de t'offenser. Oui, le souhait. C'est un désir pour que je reste toujours dans l'amour. On comprend très bien ça. Et on comprend très bien que le péché, c'est une anti-alliance. C'est être antichrist. Tout orgueilleux est antichrist. Il rejette la marque de Dieu en lui. Il rejette surtout la marque du Christ en lui, c'est-à-dire la grâce. Il ne veut plus aimer. L'ennemi le plus grand de l'amour, c'est l'orgueil, même au point de vue purement humain. Très difficile pour un orgueilleux d'aimer, parce que tout amour nous met relatif à celui qu'on aime. C'est pour ça que les hommes ordinairement qui ont plus le sens de l'autonomie ont plus de difficultés à aimer que les femmes. C'est un fait. La femme a plus le sens de la fidélité que l'homme. Beaucoup plus. Parce qu'elle a plus le sens de l'amour. L'orgueil exalte l'autonomie et veut mettre l'autonomie au-dessus de tout. Mais c'est en ce sens-là que le psychologisme est dangereux. Parce qu'il met, il plaide l'autonomie. Il y a une autonomie qui est légitime, c'est sûr. Mais mettre l'autonomie au-delà de la finalité, ne parlant plus de la finalité, ne parlant que de l'autonomie, on prépare le terrain à l'orgueil. Il y a des complicités, vous savez. Parce que c'est plus facile de saisir la psychologie de l'orgueilleux que celle d'un saint. Le saint est toujours au-delà du psychologique. Et l'orgueilleux est plein dedans. Puisqu'il y a le repliement sur soi. Et donc c'est notre conditionnement qui devient premier. C'est nous qui désaltons. Alors, essayons de comprendre la gravité de l'orgueil. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est que la satisfaction au plan divin? L'orgueilleux, nous en avons tous expérience. Parmi vous, personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce que c'est que l'orgueil. Je crois, sauf l'orgueilleux. Il n'y a que l'orgueilleux qui ne sait pas ce que c'est que l'orgueil. Mais c'est comme un chien quand il a un gros os dans sa gueule. L'os et le chien, ça ne fait plus qu'un. Il est tranquille à ce moment-là. C'est quand vous enlevez l'os de sa gueule qu'il veut vous mordre. L'orgueilleux, c'est celui qui prétend, dans son intelligence, dans sa raison, dans son intelligence repliée sur son conditionnement humain, et qui veut être toujours premier, avoir toujours raison, et ne jamais écouter les autres. L'orgueil nous enferme complètement en nous-mêmes. Et il n'y a que ce qui vient de nous qui est intéressant. On comprend très bien ça. C'est vrai. On comprend très bien comment l'orgueilleux s'enferme sur et refuse par le fait même l'acte d'adoration, qui est un acte d'amour, à l'égard du Créateur. C'est pour ça que je crois qu'à la racine de tout athéisme, il y a un orgueil collectif dans lequel on baigne. Et quelquefois un orgueil personnel. Il y a un a priori d'orgueil. Une culture purement laïque maintient un a priori orgueilleux. Puisque on veut exalter l'homme comme l'être le plus parfait. Et si on a cet a priori, on ne peut plus accepter cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, qui est l'adoration. Et c'est pour ça que c'est l'adoration qui est le moyen le plus efficace de lutter contre l'orgueil. Et la tactique du démon, c'est de supprimer l'adoration pour nous mettre sans défense. Quand on est sans défense au niveau biologique, on attrape tous les virus. quand on est bien, en santé, on les rejette. L'homme est sans défense par rapport à la laïcité poussée à l'extrême s'il n'adore plus. Et c'est l'adoration qui fortifie l'homme, qui le fortifie dans l'amour, en comprenant que l'amour est au-dessus de l'autonomie et de la dépendance. Quand on aime, on aime. Et on accepte la dépendance par amour. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. C'est l'amour qui permet ça. Et l'orgueil lutte contre cela pour l'exaltation de soi-même. Volontaire. Le péché d'orgueil est volontaire. Mais c'est pas la peine de faire des quantités de retraite pour savoir quel est notre péché dominant. Je vous le dis tout de suite. C'est l'orgueil. Si vous ne l'avez pas encore dépisté, dépistez-le. C'est la tête du démon. Et c'est comme ça qu'il possède toujours l'homme. Parce qu'il le flatte. La flatterie. Tu es merveilleux. Est-ce que tu es intelligent? Personne n'a dit ça. Et on se laisse prendre. Tu es unique au monde, unique. Tu es le plus grand de tous. Puis on se laisse prendre, c'est tellement agréable de recevoir ces coups dans son soir. Il y a beaucoup de fumée, on est. Mais il n'y a rien, il y a bonne odeur. C'est extraordinaire. Alors on se laisse prendre petit à petit. Puis on est enveloppé de ça. Et on ne fait plus aucun acte d'adoration. Ne faisant plus aucun acte d'adoration, tous les microbes peuvent venir. Et le microbe satanique par excellence que les biologistes ne peuvent pas toucher et atteindre, ce microbe qui tue l'amour, c'est l'orgueil. Il faut le dépister, parce qu'il y a cette fille d'orgueil, comme dit saint Thomas. C'est-à-dire que l'orgueil a une fausse fécondité, mais il se répand partout. Il faut découvrir ces fuites, la vanité, la grosse vanité. C'est une fille de l'orgueil. La vanité n'est pas dangereuse, tout le monde en rit, sauf le vaniteux. C'est sûr. Mais c'est pas dangereux, c'est tellement bête. Mais la bêtise par elle-même tue l'orgueil, vous voyez. Parce que l'orgueilleux veut être intelligent. C'est bien évident. Si l'orgueilleux voyait le fruit de l'orgueil dans la vanité, il en porte très lourd. L'orgueil à l'égard de Dieu, c'est se couper de Dieu. Et pour se couper de Dieu le mieux possible, c'est dire « Dieu n'existe pas ». On se donne une bonne conscience. Et comme l'orgueilleux qui nie l'existence de Dieu sait bien au fond de lui-même qu'il ne veut pas regarder en face ce problème de l'existence de Dieu, il noie le poisson par un orgueil collectif, la laïcité, la tour de Babel. Vous voyez, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et on s'appuie sur l'autre pour se donner bonne conscience. Il y a un phénomène très curieux et très important à dépister. Dans le péché d'orgueil, il y a deux choses à voir. Le péché d'orgueil est un acte positif. Je veux être intelligent et le plus intelligent de tous. Il y a des ambitions qui sont légitimes. Le péché d'orgueil, positivement, montre la grandeur de l'esprit, de la raison. C'est pas si mal. Mais où le mal existe, c'est que dans l'orgueil, je rejette tout ce qui est supérieur à moi pour être premier. Je me souviens, dans certains conseils de faculté, le raisonnement de certains quand il s'agit de choisir un nouveau professeur. Ne choisissons pas quelqu'un trop brillant parce qu'il me ferait ombre. Et ces raisonnements marchent. On ne le répète pas, il y en a un qui le dit. Tous les autres disent, oui, c'est vrai, il faut faire ça. C'est terrible. Hein? Et alors comme ça, les choses se dégradent. L'orgueil dégrade l'homme. Ça, c'est sûr. Puisque ce n'est pas une vraie finalité. C'est nous-mêmes qu'on exalte. Et on ne veut pas regarder ses limites. L'orgueil à l'égard de Dieu blesse Dieu. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Que dans le péché d'orgueil à l'égard de Dieu, qui fait qu'on rejette Dieu, qu'on rejette d'abord sa volonté, Dieu s'est trompé. Regardez le premier péché de l'homme tel qu'il est raconté dans la Genèse, qui est le premier péché d'Ève. Elle commence à dialoguer avec le serpent. Elle accepte de dialoguer avec lui. Elle se laisse prendre au jeu et elle répète ce que dit Satan. Alors qu'au point de départ, elle est juste, elle est nette. C'est assez significatif, ça. Et progressivement, on rejette l'existence de Dieu. Mais d'abord, c'est la volonté de Dieu. Dieu me trompe. Dieu ne dit pas ça pour mon bien. Dieu veut me tenir en laisse. Dieu est un tyran. Et puis, après, on rejette. Dans la faute d'orgueil, poussée à l'extrême, il y a toujours une négation de l'amour de Dieu. Pour nous. Je ne veux plus regarder que Dieu m'aime avec tendresse et qu'il me chérit et qu'il est blessé quand quelqu'un me blesse, tellement il veut cette unité entre sa petite créature et lui. Je nie ça, je coupe les ponts. Et cette volonté de m'écarter de Dieu, de sa volonté d'amour, de m'écarter du Créateur en rejetant le Créateur, la toute-puissance aimante de Dieu. Je blesse Dieu. C'est pour ça que dans le péché d'orgueil, en tant qu'il blesse la gloire du Père, il y a quelque chose d'infini. L'acte du péché est limité, puisque c'est l'acte d'une créature. Mais, formellement, dans cette mauvaise volonté de briser avec ce qui est mon bien, de briser avec ma propre finalité, il y a quelque chose d'infini. Puisque je touche la gloire de Dieu. Et quand je touche la gloire de Dieu, en méprisant la gloire de Dieu, le péché d'orgueil va jusque-là. Il y a quelque chose d'infini. Il y a une injure infinie. Puisque je touche une personne qui est mon créateur, qui est ma source de vie. D'être, de lumière et d'amour. Dieu a à une dignité infiniment plus grande que la mienne. Et sa gloire à quelque chose d'infini, puisque c'est la gloire de mon Créateur. Et c'est pour ça qu'en méprisant sa gloire, il y a une injure infinie. Et c'est pour ça que seul quelqu'un qui a la même dignité que lui peut réparer. Nous avons un petit exemple de cela au plan humain, au plan philosophique. C'est dans l'amour d'amitié. C'est dans l'amour d'amitié qu'on a le plus le sens de la personne humaine et de la dignité de la personne humaine. C'est pour cela que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un et qu'un autre vient nous dire du mal de lui, ça nous blesse. On est blessé dans notre dignité personnelle d'ami. Et seul quelqu'un qui aime mon ami comme je l'aime peut réparer. Parce qu'on a touché quelque chose qui est extrêmement profond en nous. Un véritable ami ne fait qu'un avec nous, parce qu'il y a le même vouloir entre mon ami et moi. Comme on a touché la dignité de mon ami en le critiquant, en le blessant, seul quelqu'un qui a une dignité semblable à lui peut réparer. Ou quelqu'un de plus grand que lui peut réparer. Vous voyez, on touche l'honneur de quelqu'un, la gloire de quelqu'un. Et la gloire et l'honneur touchent le rayonnement de la personne, la dignité de la personne. Très difficile à préciser ce que c'est que la dignité d'une personne. Je crois que c'est son rayonnement, c'est sa capacité de rayonner, d'attirer, c'est sa capacité d'être celui dont on reçoit son message. C'est ça la dignité de quelqu'un. Il fonde une crédibilité. Parce que le péché touche l'honneur de Dieu, il faut que quelqu'un qui est un avec Dieu puisse réparer. La créature ne peut pas réparer. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et Dieu seul pardonne. Mais pour que Dieu pardonne, au point de vue de la réparation, de la faute, de l'injure, il faut que celui qui répare ait la même dignité que Dieu dans sa personne. Vous voyez, c'est là où vous touchez ce très grand mystère de la satisfaction. Qu'est-ce que c'est que satisfaire ? C'est réparer l'injure. C'est d'ordre spirituel, vous voyez. Au niveau humain, réparer une injustice, c'est payer la dette. Ça, c'est économique. Un ami m'a trahi et a profité de mon amitié pour avoir les clés de mon coffre-fort. Et dans mon dos, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, ne laissant aucune trace. Un ami de l'ami qui a trahi peut dire « Je vais réparer. » Et je viens réparer. Et je rends la somme volée. Il répare matériellement. Il y a quand même quelque chose qu'il n'a pas réparé. C'est la trahison de l'ami. Qui est en spirituel. Et si cette personne a un peu une dignité, il dira merci de ce que tu me donnes, mais tu ne peux pas réparer quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la blessure dans mon cœur. Ce manque de confiance. Et cette trahison que l'ami a fait. Tu peux essayer de réparer. Tu es très gentil, tu m'apporteras en plus de la somme d'argent un bouquet de fleurs. C'est très bien. Le bouquet de fleurs, c'est la surabondance. On peut réparer matériellement les dégâts. Mais le dégât spirituel, il reste. Ça explique, tu vois, tous les refoulements. On parle trop du refoulement et pas assez de la réparation. Et pas assez de la dignité abîmée. C'est beaucoup mieux. Le refoulement, c'est un effet. On ne répare jamais l'effet par l'effet. Il faut réparer par la cause. Ça, la psychanalyse ne le fait pas. Parce qu'elle n'est pas assez spirituelle. Et elle ne regarde pas assez la dignité de la personne. C'est, de fait, ce qu'il y a de si terrible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend plus la dignité de la personne. Et on croit que l'économie matérielle suffit à tout. Non, l'économie matérielle ne sauve pas la dignité de la personne humaine. Dans l'ordre de l'amitié, on comprend très bien ça. Transposé, analogiquement à Dieu, l'homme a été créé dans une alliance d'amour avec Dieu. Et le premier péché est une trahison. Je ne sais pas quelle était la conscience d'Ève dans sa trahison. Je ne sais pas quelle était la conscience d'Adam dans sa trahison. Mais ils ont trahi par orgueil. Il faut que quelqu'un de plus grand qu'Adam puisse réparer cette trahison. Puisse réparer. Satisfaire. Vous voyez, la satisfaction regarde les relations personnelles et la dignité de la personne. Satisfaire celui qui a trahi. Tout péché d'orgueil à l'égard de Dieu est une trahison, puisque ça va contre l'adoration qui est ce que la créature doit faire à l'égard de son créateur. Et le faire dans l'amour et dans la liberté de l'amour. Alors nous commençons à comprendre comment le motif propre de l'incarnation en vue du salut, c'est que seul Dieu, assumant une nature humaine, peut satisfaire au nom de toutes les créatures, satisfaire à l'honneur blessé du Créateur, à la gloire blessée du Créateur. Parce que Dieu, assumant la nature humaine et faisant que cette nature humaine existe dans cette dignité divine, il peut effacer, réparer, satisfaire la trahison. Il peut même la satisfaire en réalisant quelque chose de plus grand qu'avant dans l'ordre de l'alliance. C'est le dépassement de la satisfaction par l'amour. De fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'est cela le mystère de la rédemption. Dieu veut que la satisfaction existe. Pourquoi ? Pour respecter aux yeux des hommes la grandeur, la majesté de Dieu. Et faire comprendre à l'homme le côté tragique, le côté terrible de l'orgueil, impliquant ce mépris à l'égard de l'honneur de Dieu. Montrer à l'homme que seul un Dieu peut réparer son orgueil. C'est dans la lumière de la croix que nous comprenons la gravité du péché. Qu'une petite créature puisse mépriser son Créateur, l'offenser, d'une manière telle que seul un Dieu, assumant la nature humaine, satisfaire parfaitement. Puisque les actes du Christ, parce que ce sont les actes d'une personne divine assumant une nature humaine, ces actes ont quelque chose d'infini dans leur dignité, dans leur grandeur, dans leur valeur. Et que Dieu, dans son amour pour nous, veut se servir de la faute pour réaliser une alliance plus grande. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Jésus, qui est à la fois Fils bien-aimé du Père, et Fils bien-aimé de Marie et de notre race humaine, il est le Fils de l'homme. Jésus peut, par son sacrifice, le sacrifice de la croix, non seulement réparer, mais réaliser une nouvelle alliance d'amour, plus intime, plus profonde, plus personnelle que la première alliance. Vous voyez, la satisfaction donne un élément, mais ne montre pas ce qu'il y a de dernier dans la volonté du Père qui nous donne son Fils. Et qui nous le donne à la croix. Et qui nous le donne par les sacrements de la croix. Tous les sacrements, et tout spécialement l'Eucharistie, qui est le sacrement par excellence, le sacrement des sacrements, nous font comprendre la grandeur du mystère de la croix, puisque les sacrements ont comme source la blessure du cœur du Christ dans la grande vision de saint Augustin. Et le sacrement des sacrements, ce n'est pas la pénitence, c'est l'Eucharistie. Le don de Jésus pour nous, le don du corps du Christ, le don de la blessure du cœur de Jésus, ce don réalisé à la croix. Il y a le sacrement de pénitence qui nous relie à la satisfaction. Il a satisfait pour nous. Et c'est pour ça que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Parce que Jésus s'est présenté en face du Père comme le seul responsable. Et le sacrement de pénitence nous lie à notre Sauveur en tant qu'il satisfait pour nous. Voyez, ce qui serait très beau, si on a le temps ce soir, il faudrait comprendre comment les sept sacrements nous lient au mystère de la rédemption, appliquent pour nous le mystère de la rédemption. Et les sept dimensions de la rédemption nous sont données par les sept sacrements. Alors là, vous comprenez tout le rayonnement de la rédemption. On est enveloppé du mystère de la rédemption par les sept sacrements. Or, le sacrement par excellence, c'est l'Eucharistie. Sacrement d'amour. Sacrement de don. C'est le don du corps du Christ. Le don du cœur blessé de Jésus. Qui nous fait bien comprendre comment le mystère de la rédemption, s'il est bien un mystère de satisfaction, c'est dans sa sagesse Dieu qui se sert du péché pour aller plus loin dans son don. Donc la satisfaction est bien le noyau, l'axe de la rédemption. Mais ne nous arrêtons pas à la satisfaction. Comprenant comment Dieu se sert de la satisfaction pour aller plus loin dans le don d'amour. Et l'Eucharistie nous montre ça de manière éminente. Quand vous mettez comparaison entre l'Eucharistie et pénitence. L'Eucharistie, pénitence et baptême. Pénitence et baptême sont des sacrements de la satisfaction. C'est une satisfaction enveloppée par amour qui nous conduit à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement du don. Alors vous comprenez par les sacrements la source. La source est toujours cachée, mais c'est par les sept petits ruisseaux qui sortent de la source que vous comprenez la grandeur de la source. La source, c'est le Christ crucifié, réalisant le mystère de la rédemption. Et ce mystère de la rédemption implique la satisfaction de toutes nos fautes. Mais une satisfaction qui nous permet un lien, qui réalise un lien nouveau, si nous le voulons, avec Dieu. Par le Christ, par le cœur du Christ, par le sacrifice du Christ. Un lien nouveau avec le Père. Nous remontons vers le Père grâce au mystère de la croix glorieuse, par Jésus. Nous avons donc un droit nouveau, tout à fait gratuit, pour aimer le Père, nous l'aimons par son Fils bien-aimé. Et donc nous l'aimons avec tout l'amour de son Fils bien-aimé. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Et le sauveur, c'est le Fils bien-aimé du Père.
Session sur la rédemption, le 23 mai 1993 à Ribon, par le pape Philippe, 17e conférence.
Le premier cours de cet après-midi, je répondrai aux questions. Alors, si vous en avez, n'oubliez pas. Des questions, vous voyez, des explicitations, des... Parce qu'on touche, je crois, là, le noyau, au point de vue théologique, le noyau central qu'un théologien, de théologie scientifique, doit mettre en pleine lumière. Touche à l'alliance voulue par Dieu avec cette petite créature dernière qui est son chef-d'œuvre. Voyez toute l'intensité d'amour que Dieu a mis pour créer l'homme et la femme. C'est vrai, Dieu aurait pu arrêter son œuvre en créant les anges. Ce fait que Dieu ait voulu réaliser son chef-d'œuvre au-delà des anges, en créant un être si complexe et en même temps si un. La personne humaine a une complexité très grande, on le sait, et en même temps une unité très radicale. Dieu a mis un tel amour pour créer l'homme et la femme, chef-d'œuvre de toute la création, chef-d'œuvre de la sagesse de Dieu, que la faute l'a blessé d'autant plus. Et Dieu a créé ce chef-d'œuvre malgré la révolte de l'ange. Il s'est montré dans le prologue de Saint Jean. Dieu aurait pu, devant la révolte de l'ange, dire « Si c'est comme cela, c'est pas la peine de continuer. » C'est ce que nous faisons très facilement, nous. Quand nous avons un petit projet, puis qu'on voit que il y a des petites révoltes, des murmures angéliques, les hippopotames angéliques, c'est quelque chose, voyez, c'est Lucifer. Il a murmuré. Il a dit non, je ne marche pas. C'est stupide. Et pourquoi? Parce que, avec les anges, toute la hiérarchie de sainteté est parallèle à la perfection de l'intelligence. Dieu veut créer son chef-d'œuvre pour faire que la hiérarchie de sainteté vienne de l'amour, au-delà de l'intelligence. Et c'est cela que l'orgueil angélique n'a pas accepté. Nous avons une peine énorme sur tous les hommes, intelligents, scientifiques, techniciens, d'accepter que l'amour passe avant l'intelligence. Et donc il y aura toujours dans l'amour quelque chose que notre raison humaine ne peut pas mesurer et contrôler. C'est le grand dépassement. Gérer son capital, c'est de l'ordre de la raison et de la prudence. L'amour est au-delà. Et Lucifer n'a pas accepté ça. Il a dit le non servia. Donc il n'obéit pas, il ne veut pas obéir. Il ne veut plus obéir. Il considère que Dieu s'est trompé et que c'est lui, en fils aîné, qui doit rétablir l'ordre. Un ordre de justice. Le démon plaide la justice, mais une justice sans amour. Une justice à la lumière d'une intelligence créée. Et Dieu, malgré cette révolte, a continué de réaliser ce don en créant son chef-d'œuvre. Nous avons de la peine à comprendre qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu quand on se regarde dans une glace. Et ça fait de la peine à Dieu, ça. On doit comprendre qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu. Pour nous, par Marie, par Jésus. En Jésus, en Marie, on est chef-d'œuvre de Dieu. Puisque le Père nous regarde toujours à travers la sagesse de la croix glorieuse et à travers le mystère de Marie. Et ce chef-d'œuvre n'a pas compris la qualité du lien d'amour qui existait entre lui et Dieu. Et il a rompu ça. Mais Ève a rompu par orgueil, par souci d'indépendance. Et puis surtout, de ne pas vouloir paraître plus bête que Lucifer. Comme ça joue beaucoup, ça, dans l'orgueil. Vous savez, les petits derniers dans une famille, ils veulent quand même pas paraître plus bêtes que les aînés, hein, quand les aînés les excitent un peu. Hein. Ils veulent montrer qu'au contraire, ils ont évolué, ils sont bien plus intelligents. Alors à ce moment-là, la liberté, l'exaltation de la liberté, passe devant. C'est plus l'amour. On fait une grande famille avec les anges. Et c'est pas commode d'avoir comme frère aîné des anges. Parce qu'ils sont toujours premiers du côté de l'intelligence. Alors l'homme essaie de se rattraper par les mathématiques, parce que les anges ne sont pas des mathématiciens. C'est pas angélique les mathématiques. C'est très humain. Curieux, cette course à l'intelligence. Mais c'est le grand drame d'aujourd'hui, hein. Les seules valeurs reconnues dans une laïcité, c'est l'intelligence, c'est la science, c'est l'efficacité. On mesure les hommes à ça. Et tous ceux qui sont en dessous de la moyenne, hein, bon, il vaut mieux les détruire, parce que ce sont des poids qui alourdissent. Et Dieu répond à la faute d'Ève et d'Adam en promettant un sauveur. Et ce sauveur qui doit prendre la place du pécheur pour réparer. À travers le mystère de la croix, pour qu'on comprenne mieux la gravité de la faute, et pour qu'on comprenne comment Dieu se sert de la faute pour réaliser un ordre nouveau, pour réaliser une alliance nouvelle, le renouveau. Le vrai renouveau, il est là. Et c'est le mystère de l'Église. Et le mystère de l'Église se comprend à travers les sacrements. Comme le mystère d'Israël se comprenait à travers la loi. On passe de la loi aux sacrements. Les sacrements d'amour. Et les sacrements qui proviennent du mystère de la rédemption et de la croix nous permettent, grâce à l'élément sensible de tous les sacrements, de comprendre la richesse et la plénitude du mystère de la rédemption. Continuons de creuser un peu ce mystère de la rédemption. On a saisi les deux éléments essentiels, satisfaction et une satisfaction dépassée par un nouvel amour dans une miséricorde infinie. Comment se fait ce lien entre satisfaction et nouvelle alliance d'amour. C'est que le Père veut que ce mystère de la satisfaction se réalise à travers une adoration et un sacrifice. Une adoration toute d'amour et un sacrifice tout d'amour. Et ce sacrifice et cette adoration se réalisent dans l'obéissance. Alors là, nous saisissons une nouvelle dimension du mystère de la rédemption. Je vous avais dit hier, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, Dieu aurait pu satisfaire au péché autrement que par la croix. Déjà, en poussant jusqu'au bout le mystère de la satisfaction, on comprend pourquoi il fallait un acte particulier où Jésus se présente en face du Père comme le seul responsable de toute l'humanité, le mystère de l'agonie, et que le mystère de l'agonie, pour qu'on en comprenne toute sa dimension, doit s'achever dans le sacrifice de la croix. Mais un sacrifice qui est tout à fait nouveau. Tous les sacrifices de l'ancienne loi ne sont rien à côté de ce sacrifice. Tous les sacrifices qui existent dans toutes les religions ne sont rien à côté du sacrifice du Christ. Parce que le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice d'amour. D'amour et de miséricorde. Par le fait même, c'est un sacrifice personnel, individuel, dans ce qu'il a de plus fort. Où la victime et le prêtre ne font qu'un. Ce qui est unique. Dans l'Ancien Testament, les victimes, on les achète. Et le prêtre les sacrifie. Il y a un symbolisme de l'offrande par la bête, l'agneau pascal, le jeune taureau. Il ne faut pas oublier que le jeune taureau, c'était le sacrifice le plus parfait. Donc, il y a quelque chose de symbolique qui demeure dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Et dans les sacrifices de toutes les religions, l'amour se sert du symbole pour chanter, pour se dire. Mais l'amour est au-delà du chant et au-delà de la parole. L'amour implique le don. Et l'amour, quand il est substantiel, comme l'amour divin, ne tolère pas quelque chose d'extérieur à lui. Il veut un sacrifice absolument pur. Et donc un sacrifice de pur amour. Et le sacrifice de pur amour ne peut être que l'offrande de son propre cœur. On veut donner ce qui nous est le plus cher, ce qui est le plus nous, le plus nôtre. Dans l'amour d'amitié, vous savez bien, quand on fait des petits cadeaux, on sait bien que ces petits cadeaux sont symboliques. On envoie une carte postale de Lourdes, de Patmos. C'est symbolique. C'est très très bien. Et on reçoit ça comme symbolique. Un petit signe. J'ai pensé à toi. J'ai prié pour toi. Tu étais là à côté de moi. Mais tu pas du tout. Hein. Ça fait rien. Mais c'est symbolique. On portait dans l'amour. On était là. Et la carte postale envoyée fait le lien, symboliquement. C'est très bien. Mais quand il n'y a que ça, c'est pas suffisant. Au bout d'un certain temps, on s'en lasse des petits cadeaux. Ce qu'on veut, c'est le don personnel. C'est ça qu'on veut. Et c'est tout à fait différent. De sa personne. Et c'est pour ça que si la satisfaction doit être dépassée pour manifester l'amour le plus absolu qui soit, on comprend comment le Père, dans sa sagesse, a voulu que cette satisfaction et cet amour se manifestent à travers un acte d'adoration. Si l'orgueil supprime l'adoration, c'est l'adoration qui peut seule satisfaire l'orgueil. Et l'adoration n'est parfaitement adoration que lorsqu'on s'offre soi-même. Dans tout acte d'adoration qui est fait vrai, vraiment, jusqu'au bout, vous offrez votre vie à Dieu. Vous lui remettez votre vie à Dieu. In manus tuas, on se met dans les mains de Dieu. On se remet dans les mains de Dieu. On reconnaît que tout ce que Dieu nous a donné est remis à Dieu. Et ce que Dieu nous a donné de plus cher, c'est nous-mêmes. C'est sûr. Création de notre âme. On se remet à Dieu. Le sacrifice n'est parfaitement sacrifice que dans un sacrifice sanglant. Puisqu'on ne peut plus rien reprendre. Dans un sacrifice qui n'est pas sanglant, on peut toujours reprendre. Vous savez bien, on voit ça dans l'Écriture. Les fils du vieux prêtre Élie. J'y pense souvent, parce que quand on vieillit, on devient plus semblable au vieil, au vieux prêtre Élie. Le vieux prêtre Élie, il aime tellement ses enfants, qui ont grandi du reste. Et ses enfants n'ont pas du tout la piété du vieux prêtre Élie. Alors qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils font des rapines. Parce qu'ils viennent prendre avec un crochet les viandes sacrées immolées pour Dieu, là où il n'y a plus de graisse. Eux aussi aiment l'odeur de la graisse, comme Dieu. Et ils font des rapines. Quand le sacrifice s'achève par la mort, il n'y a plus de rapine possible. Tout est brûlé. Holocauste. C'est ce qui exprime l'Holocauste. Tout est brûlé. En grec, ça veut dire ça. Holo costo. Holo, tout brûlé. Tout est brûlé par l'amour. Et c'est ça qui est de merveilleux dans cet holocauste de la croix. C'est que tout est brûlé par l'amour. Et le signe, c'est la blessure du cœur. Vous voyez, c'est la grande révélation privée de Parilmonial qui nous aide à comprendre ce que saint Jean dit d'une manière si discrète. Jean est témoin de la blessure du cœur. Et pour lui, tout s'achève dans ce témoignage. Tout l'évangile de Jean, c'est pour ce témoignage. Tellement il comprend que la blessure du cœur, au-delà du sacrifice, c'est pour que tout soit brûlé. Et que tout soit offert à Dieu. L'orgueil n'accepte pas le sacrifice. L'amour qui veut réparer réalise le sacrifice le plus parfait qui n'ait jamais existé. Un sacrifice de pur amour. Et la blessure du cœur achève ce sacrifice, le manifeste dans toute sa force. Alors on comprend ça. Évidemment, en dehors de l'amour, c'est impossible. On dira, Jésus accepte le suicide. J'ai entendu ça d'un marxiste, d'un jeune marxiste. C'est décide la libération. Premier Noël de libération à Combloux. J'étais à Fribourg. Je suis arrivé dans un milieu des maquisards. Ils avaient tous été au maquis, ils étaient tombés malades, ils étaient là à Combloux. Et on m'avait demandé de faire des conférences. Et il y avait beaucoup de marxistes, de jeunes marxistes, très sympathiques du reste. Il fallait être plus généreux qu'eux pour les battre dans leur générosité. Il fallait être plus intelligent qu'eux, c'était plus facile. Et je me souviens de cette objection. Vous trouvez un héros dans le Christ sur la croix. Et c'est un suicide. Il a accepté de mourir, sachant que c'était injuste. Et c'est vrai, vu l'extérieur, c'est l'échec le plus total. Vu de l'intérieur, c'est cette métamorphose que Jésus réalise à la croix. Ce qu'il y a de plus terrible dans l'homme, c'est vrai, c'est le suicide. C'est toujours terrible le suicide. On sait que c'est inhumain et donc qui n'est plus coupable. Et c'est vrai, ça. L'Église le reconnaît maintenant. Au Moyen-Âge, t'es pas très bien reconnu, ça. Tandis que l'Église le reconnaît. Quelqu'un qui se suicide, c'est parce qu'il ne voit plus d'issue. Il est sans issue. Et il a peur de tomber dans des mains étrangères. Il se suicide pour garder le secret. C'était toujours la question que posait pendant la guerre. Ce qui portait de lourds secrets. Par rapport aux maquisards. Ils avaient sur eux une petite boule qui leur permettait de mourir en un instant. Ils la portaient sur eux pour que, au moment où on les martyrisait, où on les menaçait qu'ils se semblaient faiblir, est-ce que la question m'a été posée plus d'une fois. Est-ce qu'on a le droit à ce moment-là de disparaître et de mourir? C'est pas un suicide, c'est pour garder le secret. Et on voit ça. Vous voyez, on méprise sa propre mort pour sauvegarder la mort des autres, pour sauvegarder la vie des autres. Et on comprend très bien ça. Jésus, c'est pas un suicide parce qu'il est Dieu. Alors il a un pouvoir sur la vie. Il est dit textuellement ça dans l'évangile de Jean. J'ai le pouvoir de la remettre et de la reprendre. Et c'est pour cela que le Père m'aime. C'est une phrase très extraordinaire et très belle. Jésus montre qu'étant fils de Dieu, il peut offrir sa vie. C'est le geste propre du fils de Dieu qui s'est incarné. Offrir sa vie et la reprendre. Offrir sa vie d'une façon positive pour glorifier le Père et montrer que le Père a tout pouvoir sur toute vie, sur tout homme. Il a le pouvoir de le reprendre. Mystère de la résurrection. Mais voyez, comme ce geste de la croix, si on ne le voit pas de l'intérieur, l'offrande de sa vie, en adorant le Père, en reconnaissant qu'il est tout. Et il offre sa vie pour nous sauver. Dans un geste d'adoration, dans un geste de sacrifice. Et ce sacrifice, c'est lui, comme grand prêtre, qui l'accomplit en s'offrant, en acceptant d'être crucifié. C'est pas un suicide, puisque c'est une main étrangère qui l'a tué. Mais d'une certaine manière, comprenons bien, Jésus a offert sa vie de lui-même. Il a hâté lors de sa mort. Et le coup de grâce, qui a été le coup de lance, qui est la seule blessure mortelle, est donnée après que Jésus ait offert sa vie, librement. Si vous lisez attentivement l'évangile de saint Jean et le récit de la mort du Christ, vous pouvez découvrir cela. C'est un acte d'amour, adorant le Père, s'offrant en victime d'amour pour tous les hommes et tous les pécheurs, pour satisfaire. La satisfaction se fait à travers l'adoration et le sacrifice. Parce que c'est une satisfaction d'amour. Ce n'est pas une satisfaction uniquement de pure justice, même à l'égard du Père. C'est une justice portée par l'amour dans la miséricorde et portée par ce sacerdoce royal du Christ, où il s'offre lui-même par amour pour nous. Donc on peut dire, voyez, que l'union entre la justice et la miséricorde se fait dans l'adoration et le sacrifice. Et tout cela dans l'obéissance, pour qu'on comprenne que tout se fait en coopérant avec le Père dans un acte d'amour, puisque l'obéissance exprime l'amour que le Fils bien-aimé a à l'égard de son Père. Je voudrais aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire regarder un autre aspect de cette satisfaction amoureuse, aimante, transformée par l'amour. De fait, Jésus aurait pu être le seul à souffrir. Sa satisfaction suffit à tout. Or, Marie est au pied de la croix. Jean est au pied de la croix. Et l'Église, à travers Jean et à travers Marie, l'Église continue le mystère de la croix du Christ. L'Eucharistie est là pour nous l'attester. L'Église continue la mission du Christ. Mission qui se termine par l'adoration, le sacrifice. L'Église continue de satisfaire et de coopérer et de compatir. Là, on touche un mystère qui, pour chacun d'entre nous, est le grand mystère de la croix présente au plus intime de notre cœur de chrétien, présente dans notre grâce sanctifiante, présente à travers tous les sacrements, qui me lie au mystère de la rédemption et qui me font vivre le mystère de la rédemption. Pour bien comprendre cela, parce que je crois que c'est capital, vous voyez, il y a deux grands aspects où le théologien doit mettre toute son intelligence au service du mystère. Pourquoi Dieu a choisi la croix? Et pourquoi Dieu veut que la croix surabonde dans le cœur de Marie et dans l'Église? C'est les deux grands mystères qui nous font toucher la sagesse de Dieu pour ce mystère de la rédemption. Et d'une rédemption qui regarde la tête et qui regarde tout le corps mystique. Vous connaissez bien ce texte de l'Écriture dans Saint Luc. Le mystère, chapitre 22, verset 39. En sortant, Jésus se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Et les disciples suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Il se sépara d'eux d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » C'est très important, ces paroles de Jésus, dites dans le secret, et que Saint Luc nous donne. Ne cherchez pas à savoir comment les hommes. Mais c'est dit dans le secret de son cœur. C'est dit aussi tout haut. Et les apôtres dorment. Que veut dire la signification de ces paroles? Est-ce que c'est Jésus qui subitement voit le mystère de la croix s'approcher. Il y a la panique. Ça pourrait être ça. Parce que l'homme, en face de la mort imminente, a toujours une certaine panique. Un frémissement. Je ne crois pas que c'est cela. Si ça avait été ça, Jésus aurait dit la mort. Il parle de la coupe. Donc c'est symbolique. Et dans l'Apocalypse, on voit bien ce que c'est que la coupe. C'est le sacrifice du Christ qui s'empare du cœur de Marie. Je crois que c'est cela. Alors nous y reviendrons.